Radio Canu vous présente, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Vacances par procuration. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Lettre lumineuse de l'hôtel éclaire la chambre minable. Ni les volets ni les rideaux n'ont été fermés. Le réveil retentit. Sursaute de dessous les draps, un jeune homme qui se soulève pour regarder l'heure sur le réveil qui se trouve sur la table de nuit. 2 heures. Il se lève. Pas simplement un slip noir. Ses cheveux chantins sont en broussailles. Il a l'air d'avoir dans les 25 ans. Taille moyen, visage agréable. Il s'habille d'un pantalon gris, d'un pull noir et de chaussures noires. Il va à une table, ouvre une petite boîte de Nescafé, prend 2 cuillères de café qu'il met dans un verre d'eau, il va remplir d'eau chaude au lavabo. C'est chaud. Allez, vite, maintenant ramassons nos affaires. Il prend un grand sac de sport et jette dedans toutes ses affaires qu'il y a dans la pièce. s'il a rien oublié. Eh, il jette le sac par la fenêtre. Puis, il sort de la pièce, les mains dans les poches. Toujours les mains dans les poches, il passe devant le gardien de nuit. Alors il tourne à droite, ramasse son sac à terre et part. Les rues sont presque désertes, il fait doux, nous sommes en juin. Eric, 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 Eric. Arrivé au boulevard des Belges, il s'arrête devant l'entrée d'un petit immeuble cossu. Prend une clé dans sa poche et ouvre la porte d'entrée. Il fait sombre. Il pose son sac dans le hall d'entrée, puis suit un couloir sans éclairer. Monte les escaliers. Premier escalier, deux portes. Il en ouvre une. L'odeur de menthe l'envahit. La pièce est dans le noir. Il entre. Avec précaution, il se dirige avec une minuscule lampe de poche. Au centre de la pièce, le lit. Un homme dort. Il dépose la lampe sur la table de nuit. Fait en sorte à éclairer le dormeur. La lampe n'est pas très forte. Il prend de sa poche un couteau et l'enfonce dans le cou du dormeur. Il a eu le temps que de pousser un petit cri. Il est mort tout de suite. Sang a jailli et éclabousse le visage de Williams. Il retire le couteau, le jette sur le parquet. C'est idiot. J'aurais pu le laisser. Il enveloppe le corps avec les draps et la couverture. Puis, il prend le corps enroulé qu'il met sur ses épaules et sort de la pièce. Le couloir et descend les escaliers. Arrive au sous-sol, il ouvre la porte de la cave. Claire et entre. Pose le cadavre à terre. Il regarde autour de lui. Il y a à terre un tas de briques et de ciment qui avaient servi à entourer des trois côtés d'un muret la chaudière. Les briques sont de vieilles briques usagées, déjà sales, et qui sont plus ou moins noircies, comme le mur de la cave. Yam prend le mort, le met debout contre le mur. À la chaudière. Pour le maintenir contre le mur pour qu'il puisse rester debout, il plante deux clous. Plie ces deux clous avec une ficelle en étendage qui maintiendra le corps contre le mur. Puis il commence à le murer brique par brique. Une fois que le mur est fini, il prend de la terre pour le vieillir. Puis, regarde autour de lui et le mur qu'il vient de faire. Et il jette la pelle à terre. Elle servit à faire le ciment. Ensuite, il sort de la cave. Il se dirige vers la chambre. Il est en sueur. Avant d'entrer, il voit ses mains qui sont pleines de sang et de suie. Il touche son visage, ses vêtements, ses chaussures sont noires. Il se retourne et va dans la salle de bain qui se trouve sur le palier. Il se déshabille. Son pull et son pantalon ont du sang. Une fois qu'il est nu, il va dans la baignoire et prend une douche. Il se sèche avec une serviette. Puis, il sort de la salle de bain en laissant ses vêtements à terre. Tourne dans la chambre, éclaire et se dirige vers l'armoire. Ouvre les portes de l'armoire. Prend une valise qui se trouve au-dessus de l'armoire, l'ouvre, y dépose costume, chemise, vêtements et chaussures. Garder un costume gris, une chemise, sous-vêtements et une paire de chaussures beige. Ensuite, il refait le lit avec des draps propres. s'habille. On retourne dans la salle de bain. Assois une coiffeuse. Trouve la photo du mort. Il observe sa photo et il se regarde dans la glace. Visage se ressemble un peu. Ses cheveux sont encore mouillés. Il prend un peigne et se fait la même coiffure. Puis, avec des ciseaux, il se recoupe les cheveux sur le devant. Avec l'aide d'un rasoir, il s'affine les sourcils et les rend moins longs. Puis, il sort de sa poche une petite boîte en plastique, il ouvre et en sort de lentilles qui lui permettra de changer la couleur de ses yeux. Les siens sont marrons et ceux de sa victime bleus. Une fois que c'est fait, il prend la photo, la met à côté de son visage et regarde dans la glace. Les deux visages se ressemblent, à part que le sien semble plus là et moins pur, mais ça pourra aller. Il voit sur la table une bouteille de parfum à la lavande. Il s'en met. Puis, il prend la bouteille et retourne dans la chambre. Se dirige vers la table de nuit.
Une montre, un passeport, un chéquier, un portefeuille. Il se met la montre, prend le portefeuille et ouvre le passeport.
Éric Duret, né le 18 février 1964 à Lyon. Nationalité française, couturier. Il regarde la photographie. Il a vieilli en passant la flamme d'une allumette dessus. Il ouvre le portefeuille. C'est la même chose qu'avec la carte d'identité. Puis, il regarde le chéquier et l'ouvre. C'est bon. Il prend la valise, éteint la lumière et sort de la pièce. Fermez la porte de l'immeuble à clé et est parti. Pas encore nuit, quelques passants dans la rue. 14h30 du matin, William se dirige vers une station de taxi. Un taxi est en attente. Il entre. Aéroport de Saint-Olaz, s'il vous plaît. Voiture file dans les rues presque vides. Arrivé à Saint-Olaz, William se dirige vers l'entrée de l'aéroport. Il part pour l'Australie. Il avait fait réserver à Eric, une semaine avant, une place. Ce genre de vacances te fera du bien, lui ai-je dit. Pas dans la salle d'attente, le départ est pour 9h30. William en profite pour manger un sandwich. Ça s'est bien passé. Je n'ai rien oublié. Une fois là-bas, ils pourront toujours me chercher. Je n'ai rien oublié. Mais si, merde! Le sac de voyage et les vêtements que j'ai laissés dans la salle de bain. Il regarde sa montre. 7h. Tant pis, j'y retourne. Avec un peu de chance, j'arriverai à voir la femme de ménage. De l'aéroport et prend un taxi. Vite, 15 boulevard des Belges.
de voiture, ouvre la porte de l'immeuble. Prends le sac de voyage qu'il avait laissé dans l'entrée et monte à l'étage. Entre dans la salle de bain. Ses vêtements qui étaient à terre dans le sac. Porte de l'immeuble s'ouvre.
C'est curieux, elle n'était pas fermée à clé.
C'est la bonne. Elle monte les escaliers. Liam, avec son sac à la main, se met derrière la porte. Elle va me faire louper mon avion, cette salope. Il entend qu'elle ouvre la porte de la chambre et entre.
Il a fait son lit, c'est bien la première fois.
Liam sort de la salle de bain. Sans trop faire de bruit, il descend les étages. Il sort de l'immeuble. Vite, vite, un taxi. Ah, oh, voilà un stationnement. Ça te lance, s'il vous plaît.
Vol Air France 633, poste C16, porte numéro 45.
Arrivé à cette lance, il a tout juste le temps de prendre son avion.
Merci.
Je m'appelle Éric Duret. Éric Duret. Éric Duret. Le voyage s'est bien passé. Arrivé à Sydney, il s'est installé dans un hôtel au centre de la ville. Monsieur Éric Duret, chambre 44. 44. Les jours se passent paisibles et calmes. Pas d'ennui pour l'échec, il a bien appris à faire la signature. Après-midi, il est souvent à la plage. Quel plaisir de se trouver dans un endroit où l'on ne connaît personne. S'étire de satisfaction. On n'aurait jamais cru que c'était aussi simple que cela. Pauvre Eric. Voilà ce que c'est que de fréquenter des endroits peu recommandables. Il sourit. Il y a 2 mois, je ne le connaissais même pas. Je traînais dans les bars sans un sou. J'étais là, une table, à moitié ivre. J'avais remarqué la bonne coupe de ton costume et ta montre. Tu payes un verre? Tu as dit oui. Tu veux sympathiser rapidement. Dans ton ivresse, tu m'as raconté ta vie. Nous sommes sortis du bar et nous sommes allés chez toi. Nous sommes revus plusieurs fois. Tu me trouvais sympathique. Je suis à la dèche, Eric. Tu peux me faire un chèque? J'ai gardé le chèque plusieurs jours. À force de le regarder dans ma chambre minable, j'ai imaginé ce que je viens de faire. Apprendre à imiter ta signature, te convaincre à prendre des vacances à l'étranger, te faire prendre une place quelques jours à l'avance. Pour prendre la clé de ton appartement, je t'ai enivré et l'ai prise dans ta poche. Au yeux de la société, tu n'es pas mort, puisque je suis toi. Celui qui a disparu n'est qu'un vagabond qui n'a pas payé sa chambre. Matin, la sonnerie du téléphone retentit dans sa chambre. Il décroche. Monsieur Éric Duret, j'écoute.
Bonjour monsieur, je suis Elisabeth Trainer. J'ai appris par l'ambassade de France que vous résidiez dans cet hôtel. J'aimerais pouvoir vous inviter à une de mes soirées. Je suis en vacances et j'aimerais être seul.
Oui, je sais, monsieur, mais un homme comme vous ne peut pas être dans une ville sans faire de visite. Cela ne serait pas correct. Nous pourrions croire que vous aviez quelque chose à cacher.
Bon, j'accepte.
J'en suis très heureuse. Préparez-vous demain soir. Nous viendrons vous chercher vers les 21h.
Il raccroche. Quelle tuile!
Lendemain, un chauffeur l'a mené dans une grande villa en dehors de la ville. Il y a beaucoup de monde.
La maîtresse de maison l'attend sur le perron. On danse dehors autour d'une piscine.
Elle sort de voiture. Elle s'approche de lui. Elle a dans les 22 ans, grande, blonde, cheveux longs pendants, très élégante, habillée d'une robe longue du soir blanche.
Soyez le bienvenu, monsieur Éric Duret.
Je vous remercie de votre invitation, madame.
Je suis Elisabeth Trainer, la fille de Trainer Banque et Compagnie. Venez, je vais vous présenter à quelques amis.
Les présentés sont toi des femmes de tout âge qui le trouvent très séduisant et beau. On lui demande la tendance de la mode à venir. Il répond d'une façon très évasive. Enfin, la soirée se passe bien.
Elisabeth est charmante. Elle ne le quitte pas de la soirée. Ils dansent ensemble. Elle se rend très excitée par lui.
Lendemain matin, en prenant son petit déjeuner, il s'aperçoit en lisant le journal qu'il a été photographié durant la fête.
Zut!
La journée, Elisabeth lui téléphone.
Pour lui demander s'il peut l'accompagner à la plage. Elle déteste s'il y a les sols. Il accepte. Elle ira le chercher en voiture dans une heure.
Ils sont tous les deux allongés sur le sable. Ils n'auraient jamais pensé qu'elle soit si désirable en maillot de bain.
Qu'en pensez-vous, Éric ?
À rien.
Vous êtes toujours plongé dans vos pensées. Vous, les créateurs, c'est toujours pareil. Vous êtes incapable de penser à autre chose qu'à votre travail.
Mais vous vous trompez. Je pensais à autre chose qu'à mon travail.
Alors, venez.
et ils vont nager dans une mer pleine d'écume. Les jours passent, ils se voient très souvent. Elle le trouve séduisant avec son regard qui semble artificiel et cette façon qu'il a d'être dans ses pensées ou dans les nuages. Lui la trouve désirable et de bonne compagnie. Et puis, cela fait bientôt un mois qu'il n'a pas touché à une femme. Depuis quelques jours, il se sent suivi, épié. Il rencontre très souvent un gros et grand homme. Que me veut-il ? La police a-t-elle trouvé le cadavre ? Non, si c'était la police, elle se la ferait longtemps qu'elle m'aurait prise. Mais, je fais peut-être des idées. Les amis d'Elisabeth sont surpris de toujours la voir avec ce petit Français. Les femmes sont surtout jalouses. Elles jasent beaucoup. La mère d'Elisabeth demande ce qu'elle souhaite faire avec ce petit Français. Elles sont toutes les deux à la terrasse de la villa. La mère ressemble beaucoup à la fille. Qu'est-il pour toi ?
C'est un ami ! Très cher ! Nous ne faisons rien de mal.
Comptes-tu l'épouser ?
Je ne sais pas.
En fait, elle n'y pensait pas. Et puis Eric ne lui a pas fait la cour. Mais, en y réfléchissant bien, elle se dit, pourquoi pas ?
Le lendemain, elle lui téléphone pour lui proposer d'aller faire du cheval dans la campagne environnante. Elle ira le chercher vers les 10 heures à son hôtel. Il fait beau, mais le temps est très sec. Eric n'aime pas tellement faire le cheval. Elisabeth adore. Ils ont amené un pique-nique. Heures, il s'arrête dans un champ pour manger. C'est Elisabeth qui a tout préparé. Une fois que la nappe est mise, il mange.
Eric, vous n'avez rien dit durant tout le trajet. Ça ne va pas ?
Si, ça va, mais je dois vous avouer que je n'aime pas tellement le cheval.
C'est une envrée. Vous auriez dû me le dire.
Je ne voulais pas que vous vous priviez pour moi.
Alors pourquoi êtes-vous venu ?
Pour pouvoir être avec vous. Elle sourit et se dit...
Il m'aime peut-être. Il suffirait de peu de choses pour qu'il se déclare. Aïe !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je crois que j'ai été piqué par une abeille ou quelque chose comme ça. Aïe !
Il se lève.
Où ?
S'approche d'elle.
Là, dans le cou.
Il regarde.
Je ne vois rien. Si, regardez mieux. Cela me fait affreusement mal.
Il se penche. Comprend. Et l'embrasse au cou. Ne réagit pas. La chaleur aidant, le baiser se prolonge un peu trop. Puis, voyant qu'elle ne dit rien, il met sa main sous sa jupe culotte et monte. Elle a les yeux fermés. Elle s'abandonne complètement. La main monte. De son autre main, il la déboutonne. Il l'embrasse sur les lèvres. Un quart d'heure plus tard, ils sont allongés tous les deux l'un à côté de l'autre. Il lui tient la main.
Je crois que je vous aime, Eric. »
Il se soulève un peu et soupire. « Il ne faut pas, Elisabeth. » Elle le regarde étonnée.
« Quoi ?»«
Parce que je ne suis pas digne de vous et que vous ne me connaissez pas. Je serai peut-être un jour obligé de partir. »«
Nous partirons ensemble. »
Il lui sourit et l'embrasse. Puis, il se lève, se range et remballe tout ce qu'il a servi pour le pique-nique. Puis cette promenade en cheval, ils se voient souvent. T'en es assez. Voici qu'un jour que je suis suivi par ce gros type. Que me veut-il ? Il ne doit pas être de la police. Elle m'aurait embarqué et puis c'est tout. Et puis, je ne pourrais pas retirer mon argent. Non, ce n'est pas de la police. Alors qui est-il ? Il faudra que j'aie un entretien avec lui. Sort de son hôtel. Tiens, le voilà qui m'attend. Il monte dans sa voiture, car il a loué une voiture depuis quelques jours. Il a pris la sienne lui aussi. Bon, eh bien, puisque tu veux me suivre, tu vas me suivre. S'éloigne de la ville et longe la côte. Il roule à vive allure. L'autre le suit. Il roule ainsi durant 2 heures. Il arrête brusquement la voiture. Sort de voiture, il court sur la plage se cacher derrière un rocher. Il a arrêté sa voiture et court à sa poursuite, mais il n'a pas vu où il était caché. Devant la cachette d'Eric. Eric l'attrape par derrière au collet. Maintenant, vous allez me dire ce que vous voulez. L'homme, d'un coup de coude, se dégage de l'emprise d'Eric et se sauve. Eric sort un couteau de sa poche et le lance en plein dans son dos. Il tombe. Eric court vers lui. Il se penche. Il voit qu'il est mort. Il se relève. Il voit que la scène a été vue par 2 adolescents qui se trouvaient cachés derrière des rochers. Eric court vers la voiture. Le vieillard est près de la voiture. Eric monte dans la voiture et démarre en vitesse. Merde, merde! Quelle connerie j'ai fait! Il faut que je quitte le pays le plus vite possible. Vieux a dû regarder mon numéro d'immatriculation et 2 jeunes vont me reconnaître. Son hôtel, il monte dans sa chambre. Sa valise sur le lit, l'ouvre et commence à faire ses bagages. frappe à la porte. Il va ouvrir. C'est Elisabeth. Elle voit la valise. Elle s'approche de lui.
Partez.
Oui, je dois partir de suite.
C'est pour affaire?
Oui.
Vous reviendrez?
Non, je ne sais pas. Il n'a pas eu la force de lui mentir.
Ah, vous allez où?
Il hausse les épaules.
Vous ne savez pas? Que se passe-t-il? Dis-moi tout.
Écoutez, Elisabeth, je ne suis pas celui que vous croyez.
Il y a une autre femme?
Non.
Eh bien, dites quoi?
Je dois quitter le pays. J'ai fait une grosse bêtise. La police me recherche.
Quoi? Racontez.
Il s'assoit sur le rebord du lit. Vous l'aurez voulu. Eh bien voilà. Il lui raconte tout. Elle s'est assise à côté de lui. Une fois qu'il eut fini.
Vous moquez de moi. Qu'est-ce que cette histoire?
C'est semblable. Même l'enfant de 10 ans n'y croirait pas.
Pourtant, je vous assure que c'est la vérité. Je dois partir. Il se lève et prend sa valise. Elle se lève.
Vous allez où?
Je ne sais pas.
Venez avec moi, vous prendrez ma voiture.
Mais c'est impossible, je ne veux pas vous faire courir de risques. Je suis un criminel.
Ne l'ai pas recommencé. Venez.
Et ils partent. Démarre et ils sortent de la ville. Où allons-nous?
J'ai une petite maison de pêcheurs au bord de la mer. Vous verrez, chérie, vous y serez très bien.
Trois heures de route, ils sont arrivés. C'est dans un endroit isolé, sans route, sur une dune au bord de la mer. Une petite maison basse. Elle a garé la voiture sur un chemin et poursuit leur trajet à pied.
Je suis heureuse d'avoir enfin un petit homme bien à moi.
Elle frappe à la porte. Porte s'ouvre. D'un géant noir.
Bonjour, Bamba.
Bonjour, maîtresse.
Ils entrent. Dans une petite pièce sombre, plancher à terre, mur à la chaux, une table, 4 chaises.
Je te présente Monsieur Eric. Viens vers moi, Bamba. Je vais te donner quelques ordres pour que Monsieur Eric soit au mieux.
Ils vont tous les deux dans un coin de la pièce. Parlent à voix basse, puis reviennent vers Eric.
Voilà, j'ai donné des ordres pour Bamba, pour que tu sois au mieux. Et si nous mangeons maintenant?
Après le repas, ils vont faire une petite promenade au bord de la mer. Ils vont se coucher chacun dans une petite chambre. lendemain matin, Eric se réveille, sort de sa chambre et va dans la pièce commune. Il retrouve Bamba.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Bamba. Madame n'est pas encore levée ?
Madame partie, monsieur.
Ah ? Elle reviendra quand ?
Je sais pas, monsieur.
Elle est partie où ?
Sydney, monsieur.
Je vais faire un tour.
Le noir s'avance vers la porte.
Non, monsieur. Madame a dit que monsieur ne devrait pas sortir. C'est interdit. Tant que madame ne dira pas que monsieur a le droit de sortir, il ne sortira pas.
Nous avons le téléphone, Bamba ?
Non, monsieur. Pas téléphone, pas magasin, ni radio.
Madame dit que ça ne sert à rien ici.
La ville la plus proche est à 300 km.
Kilomètres plus loin de la maison, une voiture, en voulant éviter un kangourou, a dégringolé dans un ravin. Conductrice est morte sur le coup.
Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Vacances par procuration. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.